les joueuses et salut les joueurs. Alors aujourd'hui, je suis avec Flavien autour du micro, il m'a proposé de développer une nouvelle chronique pour Proxy Jeux. Et l'idée en fait, ça serait de faire une espèce de crossover entre la chronique que Dédé nous présentait, le jeu expliqué à ma grand-mère, et la chronique, le lexique ludique que l'on retrouve chez Hearthzone. Salut Flavien.
Salut Maxime, salut Père Castor. Et donc ouais, chez Hearthzone en fait, on avait commencé à lancer un lexique ludique, parce qu'au début on visait effectivement à viser un public assez large qui n'est pas forcément connaisseur des termes genre deck building et compagnie, les mêmes genres de termes que Dédé expliquait dans les jeux expliqués à ta grand-mère. On n'a pas repris son titre, hein, pas parce qu'il était pourri, hein, Dédé, pardonne-nous, mais parce qu'on voulait t'en laisser la pleine paternité. Et donc le lexique ludique, on avait en fait plusieurs définitions, qui n'est pas terminée d'ailleurs à l'heure où on enregistre, qui sera pas terminée à l'heure où vous entendez ça, des petits termes qu'on essayait de développer rapidement, un peu comme dans un dictionnaire, et parfois dans les mensuels, quand les mensuels existaient encore dans Playtime, on prenait un terme, on en discutait comme ça, et finalement ça permettait de discuter un peu plus longuement, un peu différemment du terme écrit, et donc on s'est dit qu'on allait effectivement faire un petit crossover. Alors en général,
voilà, essayer d'en discuter à deux
pour, on va discuter à deux, un peu comme ce qui se faisait dans le mensuel, c'est que sur Hearthzone on publiera les termes dont on a discuté au moment où l'enregistrement paraîtra, je pense, et puis on mettra l'enregistrement Proxy Jeux en dessous du terme écrit.
Alors cette nouvelle chronique, elle s'appelle Thermofromage.
Les termes au fromage.
Voilà, parce qu'on va expliquer les différents termes que l'on retrouve dans le jeu de société.
Et le fromage, ben, dédicace à Vemazuka qui aime tellement c'est pas le fromage, mais pour le coup le thermofromage. Mais là, on est en train d'expliquer la blague et c'est là que c'est. Tu te rends compte que c'est pas le meilleur titre du monde. Du coup, hein, s'ils ont un meilleur titre, les auditeurs, qu'est-ce qu'on leur propose? Proposer sur Twitter.
Voilà,
et puis,
c'est ça.
S'il vaudrait mieux à l'unanimité de nous deux, et ben on le prendra et vous aurez l'honneur d'avoir le titre à chaque émission.
Voilà. Donc après cette petite introduction un petit peu longue, alors on va développer le terme du jour.
Et alors tu veux expliquer peut-être comment est-ce qu'on choisit le terme du jour?
Ouais, t'as jeté un dé 100 et t'en as choisi un, c'est ça?
Un dé 26 avec les lettres, non? Sur internet, tout simplement, j'ai demandé une lettre aléatoire. Ça donne la première lettre du mot qu'on va travailler. Et je fais ça jusqu'à ce qu'on ait un mot complet, en fait, le mot dont on s'approche. Donc c'est vraiment aléatoire. Hein. Y a des mots sur lesquels on parlera plus longtemps que sur deux, sûrement, je pense. Hein, mais voilà. Donc je te laisse présenter le terme du jour.
Alors aujourd'hui, ton système aléatoire nous a sorti la lettre V. Et alors on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas des jeux velus ou velus?
Enfin, velus.
Hein, ouais, donc velus, sans accent.
Velus. Et d'ailleurs, c'était la seule définition à l'heure actuelle où j'ai écrit. De ce que j'ai écrit à la lettre V, hein. Donc voilà, le système aléatoire nous a attribué des poils. Alors on va se poser un peu la question, qu'est-ce que c'est qu'un jeu velu? Est-ce que ça a un sens de parler de jeu velu, ce terme un peu macho finalement? Moi c'est la première idée qui m'est venue, c'est on parle de jeu velu,
donc c'est réservé aux hommes
et puis aux hommes les vrais, tu vois, ceux qui ont du poil un peu, voilà. c'est pas pour n'importe qui, hein, non plus, faut pas exagérer, c'est pas pour
donc c'est les jeux à base de testostérone. Donc c'est les. Est-ce que c'est forcément des jeux où on va se mettre sur la gueule?
Est-ce que c'est forcément de la méritrage? Alors on va se poser la question. D'abord, on s'est un peu posé la question d'où pouvait venir le terme velu. Alors il y a plusieurs possibilités. Je te laisse émettre tes hypothèses.
Alors une première hypothèse. Est-ce que c'est réservé à ça vient d'un milieu un peu étudiant où on est forcément barbu.
Étudiant rôliste au geek.
Voilà,
disons.
C'est ça. On est forcément barbu avec des cheveux longs. Donc,
et un peu sale.
Accessoirement. Et du coup le terme déjà velu, est-ce que ça désigne des poils, la chevelure, tu vois? Donc on pourrait voilà. d'abord se poser la question d'un point de vue biologique, tu
c'est
vois.
C'est ça, déjà pour commencer. Et puis on peut se poser la question dans le jeu de société. Alors on a un grand ambassadeur du jeu de société sur Trick Track qui est Monsieur Fall, qui est notamment connu pour sa barbe, un peu comme Chabal à la Belle Époque qui faisait des pubs alors que c'était pas un si bon joueur que ça. Et effectivement Fall est velu, et quand il parle des jeux qu'il aime, lui c'est et il utilise souvent le terme jeu velu, et il y a un espèce de lexique ludique pour le coup qui s'est mis en place chez les joueurs qui vient pas mal de Trick Track en fait. Donc voilà le terme velu, l'origine, ouais. C'est un peu difficile à définir. Effectivement, il y a sûrement quelque chose par rapport à la pilosité
alors,
des joueurs.
Voilà. Alors après, si on s'attaque plus au jeu en eux-mêmes. Derrière le terme velu, on peut avoir l'imaginaire de l'enchevêtrement où il y a plein de choses qui vont être un peu mélangées ensemble, qui vont être liées. Donc, la première chose, c'est les règles.
Ouais,
donc,
on a défini trois grands axes, disons, de qu'est-ce qui peut faire que c'est un jeu velu. Alors, je pense qu'on peut se mettre d'accord déjà sur quand on parle comme ça, fais attention, c'est un jeu voluche, parce que toi, tu entends par là, tu vois les premières représentations, que ce que ça évoque chez toi.
Alors moi d'abord, ça va être un livret de règles qui est relativement épais. Donc on dépasse la dizaine de pages. Donc ouais, sans voir, exemple, voir sans plus, illustration, ouais. Voire plus, ouais. Également, la durée de jeu, forcément. Bah c'est souvent lié, hein, quand t'as des règles très épaisses, tu vas avoir des durées de partie qui sont également épaisses, hein, qui sont également longues, pardon. Et qui dit souvent règle épaisse dit complexité du jeu.
Ouais, c'est vraiment les trois as qu'on a retenu. C'est d'abord la règle. Est-ce que c'est la règle qui rend un jeu velu? Est-ce que c'est la durée de jeu qui définit la pilosité du jeu? Ou est-ce que c'est la complexité, donc la manière dont les règles s'imbriquent? Moi, c'est vrai que quand on me dit attention, ce jeu est velu, j'associe ça directement dans mon esprit à la complexité. C'est réservé en fait à des joueurs avertis. Avec tout ce que le terme a de... Voilà, tout joueur est averti, puisqu'il est averti qui va jouer en général.
Voilà,
Mais voilà,
après, il n'est pas forcément averti de toutes les règles, donc...
Ça fait penser effectivement à un public de niche, quoi. En tout cas, un public qui sait où il met les pieds, qui n'a pas peur de se farcir 30 minutes, voire plus de règles aussi. Donc, si on veut commencer par la règle, déjà, il y avait... je sais plus c'était quel jeu qui avait fait finir les règles douloureuses à l'époque. C'était chez Asmo, je crois, qui avait ce jeu. Donc les règles, qu'est-ce qui fait que on pourrait dire d'un jeu qui évolue de par les règles? T'as parlé de la taille des règles.
Ouais, mais alors tu peux aussi avoir l'inverse. C'est, tu peux aussi avoir un jeu où les règles sont très fines, mais par leur finesse, il y a un manque d'explication et au final, ça te rajoute de la complexité parce que t'es là en train d'essayer d'extrapoler et d'essayer de deviner des informations. Donc ça aussi, ça peut rajouter de la complexité indirecte.
Quand tu me parles de ça, je pense bien sûr aux règles de Martin Wallace. Pas les derniers jeux qui sont édités par les Space Cowboys parce que les règles ont été retravaillées par l'éditeur, mais je pense par exemple à Brass, tu vois, Chris of Snow, ce genre de jeu où il faut des errata, je suis en train d'écrire actuellement une critique sur Itzero justement et c'est mon angle d'attaque, c'est voilà, il faut des errata, des FAQ, des versions 1.2.7 des règles pour enfin y arriver
et se partir les forums sur BGG
et sur TrickTrack, ouais. Etc. Et c'est même pas des règles fines, mais effectivement. Ouais, la règle, il y a donc la taille, il y a la façon dont c'est écrit par l'éditeur, par l'auteur. Alors, ça dépend des éditeurs. Il y a des éditeurs qui travaillent plus ou moins les règles. Mais on peut pas dire, je pense, que la taille de la règle définit de la complexité. Elle définit en partie, mais pas totalement, disons, la complexité du jeu. Je pense, par exemple, à des jeux, finalement, relativement simples, dans l'absolu, comme Mice and Mystics, comme Zombicide, qui vont avoir des...
Mais là, tu vas avoir une règle qui va être très longue parce que tu auras énormément d'exemples en fait de mise en situation. Donc, au contraire, c'est censé
aider, mais
décomplexifier la.
Les joueurs se rappelleront que lors des premières parties, tu fais beaucoup de retours dans la règle, etc. Parce que justement, il y a un côté un peu abstrait comme ça par moment. Donc voilà, la règle effectivement qui peut être longue, qui peut être mal écrite. Qui peut avoir des exemples, voilà, il y a une espèce de norme depuis Days of Wonder, on attribue souvent à Days of Wonder la paternité de la règle claire.
Avec la présentation efficace. Du plateau au milieu et les différents cadres de texte qui viennent s'imbriquer tout autour.
Ok, après, ouais, il y a une manière de présenter les règles. Moi, j'aime beaucoup les règles Istari, ou les règles de chez Pearl Games qui présentent le but du jeu, qui présentent les objectifs, les actions possibles.
Mais les règles de Pearl Games, elles sont extrêmement concises.
Ouais, bien
sûr. Et c'est même, c'est chez toi que Sébastien Dujardin, il disait que,
En fait,
l'écriture d'une règle, en fait, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, parce que chaque terme, il va falloir le choisir judicieusement pour justement bien faire passer le message et justement pas rajouter de l'ambiguïté
au
niveau du texte. Ouais.
Et pareil, chez Istanbul, chez Pearl Games, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, c'est des jeux complexes, hein. Est-ce que c'est des jeux vraiment velus? On peut en discuter, mais c'est que, en lisant la règle, on voit l'action se dérouler, en fait, la partie se dérouler presque, et on peut déjà imaginer qu'est-ce qu'on va faire. Et du coup, quand on joue après, eh ben, on se dit, ah ouais, j'ai fait que, je peux faire ça, ça, ça. Et en fait, il y a une espèce de logique qui se met en place, dès la lecture de la règle, qui facilite la première partie. Donc, voilà, pour les règles, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
Je pense qu'on a fait le tour, hein, donc
pas de. De toute façon, de manière générale, je pense qu'on énoncera des relatives généralités. Hein, c'est aussi destiné cette émission à des joueurs des nouveaux venus, justement pour un peu décortiquer les termes du jeu de société. Donc voilà, bien sûr, il n'y a pas d'absolu. Hein, il y a des règles longues qui vont cacher des jeux simples, des règles courtes, comme tu l'as dit, qui vont être mal écrites ou pas forcément, mais qui vont abriter de la complexité.
Voilà.
On peut passer sur la durée de jeu.
Donc souvent on pourrait aussi associer un jeu velu, ça sera forcément un jeu qui va durer des heures. Donc
un peu comme le jeu de rôle qui pouvait durer des heures aussi par exemple, ouais. Si on reprend l'exemple du rôliste.
Donc je pense que dans l'esprit des gens, et enfin en tout cas dans le mien, un jeu velu c'est à partir de 3 heures de partie.
Ouais, donc soit 80 minutes déjà, c'est quand même effectivement c'est très long. Il y a très peu de jeux aujourd'hui qui sortent qui sont dans ce format-là. Moi effectivement, quand tu parles de jeux velus, alors il y a plein de contre-exemples et on en parlera, mais je pense par exemple à Civilization, au Trône de Fer, à Diplomatie. Je dis pas que ce sont des jeux velus, mais c'est ce que ça m'évoque parce que c'est des parties très longues. Zombicide également qui peut être très long, et des jeux qui dépassent la durée indiquée sur la boîte souvent en fait.
Bah alors après tout dépend de la manière dont ils jouent parce que je sais que moi j'ai l'habitude quand on joue on fait des pauses, on discute, il y a un peu de metagame, on fait une pause bière par exemple. Enfin,
ouais, moi ça m'arrive souvent.
On n'est pas là en mode rush pour finir au plus vite la partie. On est plutôt dans un espace convivial en fait pour.
Oui bien sûr, ouais. Même dans les jeux très complexes, disons les jeux qu'on va considérer comme velus, qui demandent beaucoup de capacités cognitives. De vraiment réfléchir, de se poser, ça n'empêchera pas effectivement de rire un bon coup, parce que sinon c'est pas très amusant. Après chacun joue comme il veut. On peut comprendre aussi que des joueurs veuillent vraiment se concentrer sur un coup et que du coup ils réclament le silence, etc. Moi je sais que je joue pas du tout comme ça et les joueurs avec qui je joue ne jouent pas comme ça non plus. Mais il y a plein de contre-exemples après de jeux longs qui sont pas si compliqués. Je sais pas si toi il y en a qui te viennent à l'esprit directement.
Moi j'ai plutôt des contre-exemples parce que tu peux aussi avoir des jeux dits accessibles qui peuvent durer des heures. Ouais. Moi j'ai souvenir d'une partie de Catan par exemple. Alors, il est souvent cité comme étant un gateway games.
Ouais, pour moi c'est absurde, ouais. Même Carcassonne, tu vois, moi je mets 25 ans parce que quand tu es effectivement un joueur, qu'on va dire averti, Carcassonne, t'as plein de possibilités qui peuvent apparaître et tu peux te prendre la tête dessus. Mais Catan est un très bon exemple.
Mais autant Carcassonne, je veux dire, tu peux quand même arriver au bout de la partie sans avoir une espèce de blocage in fine qui attend un résultat de dés pour qui arrive jamais pour terminer la partie. Quoi.
Ou bien souvent ce qui est dit quand on dit que Catan est un jeu trop long pour ce qu'il est et qu'il est trop vieux de toute façon, tout simplement. Ou Small World, pareil, moi c'est un jeu que j'ai trouvé très vieux maintenant parce qu'on attend beaucoup entre les tours et que les parties sont longues. Moi je trouve à Small World. Alors, on fait des parties qui s'éternisent, mais donc dans Catan,
c'est parce que vous réfléchissez vraiment beaucoup. Enfin,
ouais, certain,
autant, enfin, certain. Moi j'ai le sentiment que une partie de Catan peut être nettement plus longue qu'une partie de Small World.
Dans l'absolu, ouais, parce que Small World il y a un nombre de tours qui est défini. Dans Catan, en fait, on dit ouais, mais c'est parce que vous négociez mal. Et en fait, c'est que tout simplement, si on veut jouer pour gagner, les négociations aboutissent quasiment jamais parce que tu sais que ça va trop avantager l'autre. Du coup, tu te dis, je préfère attendre à avoir ma chance au dé que de négocier.
Ça, c'est le problème du facteur metagame qui rentre dans un jeu. Hein. Donc, celui-là, il est pas forcément mesurable pour une durée de partie, quoi. Dès que, c'est vrai que Catan, ça peut quand même être un jeu qui pourtant paraît accessible, peut durer très long. Donc, est-ce que la durée de jeu est, au final, à intégrer dans le fait qu'un jeu soit velu ou pas.
Inversement, il y a des jeux très longs, par exemple Diplomatie ou le Trône de Fer, qui effectivement sont longs et demandent un investissement parce qu'il y a des longues règles, etc. Mais qui à jouer sont relativement fluides et où il n'y a pas. Bon, là aussi, il y a une forte dans les deux. C'est deux jeux du même genre. Il y a une très très forte dimension de metagame avec les discussions implicites ou non et qui prennent du temps. Mais c'est des jeux longs, mais pas forcément si complexes que ça. Peut-être moins complexes qu'un Bruxelles 1893, qui est finalement plus court, mais où les neurones sont, c'est bien plus brain burner, si on veut, où les neurones vont beaucoup plus chauffer.
Tu montes directement à 100% de capacité de
ça,
réflexion.
Chaque coup, il y a plusieurs jeux comme ça, effectivement, qui sont longs et qui finalement sont pas si velus. En tout cas, vont être peut-être plus accessibles à des nouveaux joueurs que des jeux plus courts, plus complexes. Et du coup, ça nous amène sur le dernier critère.
La complexité
vraiment du jeu qui définit peut-être la pilosité du jeu.
Voilà, donc ou si on revient au terme initial, hein, le premier comparatif, donc on va dire l'enchevêtrement, hein, si on considère que la pilosité s'enchevêtre, on revient sur l'aspect complexité. Alors déjà, si on voulait définir, qu'est-ce que la complexité d'un jeu?
Parce ça, que, je pense que ça demanderait tout un podcast.
Ouais.
Et voilà, il y a...
Parce que d'un côté, il y a les compétences, on va dire, ou les compétences cognitives qu'on va devoir mettre dans le jeu. Donc, est-ce que c'est de l'optimisation? Est-ce que c'est du calcul mathématique? Est-ce que c'est de la programmation? Est-ce que c'est de l'optimisation?
Est-ce que c'est des compétences sociales dans le jeu de négociation, effectivement.
Voilà, où il y a du metagame. Est-ce que c'est de la communication, comme tu disais. Ou est-ce que c'est le fait de devoir systématiquement prendre en compte un ensemble de paramètres pour calculer une espèce de chemin critique qui va nous mener à l'action qu'on va devoir
Et la meilleure possible.
Voilà.
Je pense que la complexité du jeu est vraiment à mettre en relation avec la règle. Il y a des règles simples, mais qui mises ensemble, c'est là où on retrouve l'entremêlement dont tu parlais, vont aborder des trucs assez complexes parce que finalement, c'est un assemblage de pas mal de choses qui vont faire un tout qui est plus que la somme des individualités. On dit souvent ça pour l'effet de groupe, c'est que le groupe est plus fort que la somme de ses individualités. Et là, si on met plein de petits points de règles ensemble, alors c'est presque le symbole des vieux jeux, hein, parce que finalement...
Les jeux de Feld, par exemple.
Ouais, les jeux de Feld, ou même... Voilà, aujourd'hui, on dit souvent qu'un jeu, il doit pouvoir en rester la plus fine, la plus simple essence.
Voilà, on doit le filtrer pour en avoir le substrat, entre
voilà, c'est ça. Et que tant qu'il y a quelque chose à enlever à un jeu, il n'est pas terminé. En tout cas, c'est ça la première phase du développement, quand on écoute les auteurs un peu, et qu'après, on peut enrichir éventuellement de petits trucs qui collent à la thématique, etc. Mais c'est vrai que les jeux plus anciens, il y avait peut-être moins cette recherche de la pureté, même si là aussi, il y a plein de contre-exemples. Hein, mais du coup, la complexité vient de cet enchevêtrement de mécaniques différentes qui, prises individuellement, sont pas forcément très complexes, mais qui, mises ensemble, vont faire que notre cerveau va devoir réfléchir à plusieurs paramètres et donc arriver à une conclusion.
Avec la nécessité de faire travailler la mémoire.
Ouais,
parce
aussi,
que
parfois,
si tu dois intégrer plein de points de règles différents, bah, ça rajoute de la complexité, hein. C'est presque inévitable.
Et si on veut rajouter la potentialité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement toutes les actions de chacun, mais on va essayer d'envisager la potentialité de l'action de chacun, c'est-à-dire ce joueur-là, il peut jouer ça. S'il joue ça, il faudrait que je joue ça. S'il joue ça, et là, on arrive
dans
ce qu'on
appelle... Est-ce que je dois retarder mon action, ouais.
On arrive dans ce qu'on appelle l'analyse paralysis, qui est aussi quelque chose qu'on trouve dans les jeux velus, même si on peut la retrouver dans des jeux plus simples. Mais c'est aussi quelque chose qui va se développer beaucoup chez les joueurs qui en sont les victimes de cette maladie difficile à vivre pour les autres, qui du coup...
Ou qui recherchent ça, au contraire.
Ouais, voilà, il y a certains où c'est un plaisir presque masochiste de se faire chauffer le cerveau pour arriver au meilleur coup. Et c'est vrai que la complexité, donc ça peut être le mélange des choses, l'éventualité de toutes choses, analyser chacun des coups pour arriver au meilleur, et c'est vrai que... Là, on arrive sur la durée de partie qui est rallongée. Donc, on voit que les trois éléments, règle, durée de partie, complexité, sont forcément entremêlés. On avait fait trois parties, mais c'était un...
Ouais, parce qu'après, on peut aussi étendre. Du coup, est-ce qu'un jeu velu, c'est forcément un jeu qui a une boîte immense? Parce que qui dit boîte immense dit matériel à profusion. Donc, qui dit matériel à profusion dit point de règle spécifique à chacun des morceaux de ce matériel qui sera utilisé au cours de la partie ou au cours des différentes actions possibles par les joueurs. Et donc, qui dit masse de matériel dit... Est-ce que un jeu velu, c'est forcément un jeu cher?
Ça, c'est, ouais, il y a plein de contre-exemples là aussi, hein. Des jeux à 40€ qui sont tout à fait, qu'on peut tout à fait considérer comme velus, et inversement, des jeux à 100€ ou 90€ aujourd'hui, qui sont finalement plus accessibles que des jeux à 40€. Mais on pourrait aborder la question effectivement par l'angle du matériel. Est-ce que finalement, c'est un jeu dont la boîte déborde de matos, qui va être tout utilisé dans la même partie ou sur plusieurs parties, mais... Voilà, moi je trouve que ce qui définit aussi un jeu velu, si on prend un peu tout ce qu'on a dit, c'est l'accessibilité de ce jeu, finalement, à un public relativement nouveau.
Donc sur un problème de thématique ?
Non, pas du tout la thématique, pour le coup, vraiment plutôt pour l'accessibilité en termes de game design, enfin de plaisir de jeu immédiat. Aujourd'hui, on a la gamme Familial Plus, Familial, Familial Plus, qui doit être le plaisir immédiat à la première partie. Parfois, avec le côté, ben j'ai fait une partie et j'ai vu tout ce qui pouvait en découler, en fait, et du coup j'ai pas forcément moi...
Mais ça c'est quand t'es déjà un joueur averti, je veux
voilà,
dire, tu présentes
fait.
Le jeu à,
mais du coup, un
à des joueurs novices, je veux dire, c'est presque impossible qu'ils arrivent à saisir toutes les subtilités du
Bien
jeu
sûr.
Dès la première partie.
Bien sûr, mais du coup l'accessibilité ce serait sur un jeu velu et un jeu qui se donne pas dès la première partie. Alors du coup ça pose la question de la subjectivité et de la pilosité du jeu, puisque comme tu dis, un jeu familial plus pour un joueur entrant dans le milieu... Ça va être déjà complexe parce qu'il y a beaucoup de règles à assimiler, tandis que pour toi, moi ou quiconque qui joue depuis quelques années et qui s'intéresse à des jeux que nous on va considérer comme velus, voilà, le Familial Plus, hein, la première partie, on va maîtriser le truc, on fera peut-être pas le meilleur score, hein, y a peut-être des marges de progression, mais en tout cas on va l'assimiler bien plus et c'est des jeux plus complexes qui vont nous poser plus de problèmes. L'accessibilité, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la règle, par exemple. Et par rapport à la complexité. C'est le mélange entre les deux qui va faire que si la règle est mal écrite ou si la règle incorpore beaucoup d'éléments et que le jeu est complexe en plus de ça, du coup ça va pas forcément être accessible à un large public et le jeu velu du coup deviendra un jeu de niche en fait.
Ouais, mais du coup est-ce que la complexité rime forcément avec le plaisir de jeu ?
Ah, bah ça c'est à chacun de effectivement de voir où.
Parce qu'au bout d'un moment tu peux aussi dire waouh, il y a quand même énormément de paramètres à prendre en compte et au final est-ce que c'est plaisant ?
Ah ben ça, y a des joueurs qui aiment beaucoup effectivement parce que.
Mais sans forcément devoir calculer ou optimiser, mais moi j'ai souvenir. Récemment j'ai fait une partie de Race for the Galaxy et je l'ai trouvé avec l'extension Xeno et je l'ai trouvé énormément complexe. Bon, ouais. J'étais peut-être pas en forme ce soir-là pour y jouer, mais c'était pas le souvenir que j'avais de mes parties précédentes. Tu vois. Alors c'était peut-être
Ray,
la configuration
jeu,
du jeu.
Pour le coup, Ray, c'est un jeu peu accessible aux premières parties, parce que l'iconographie, parce que l'édition, etc. Et il y a plein de jeux comme ça qui tournaient. On a un autre exemple, par exemple, les premières parties, on est venu plonger dans les règles parce que l'iconographie saute pas aux yeux ou est pas évidente. Et là, l'accessibilité est moins du fait de la complexité du jeu, et donc l'accessibilité du jeu découle plus effectivement de la manière dont ça a été édité, dont c'est finalement accessible au premier venu, que vraiment de la durée de jeu ou de la complexité réelle du jeu, parce que Race for the Galaxy n'est pas un jeu si complexe pour qui connaît déjà un peu le jeu de société. Mm-hmm. Mais ouais, moi, c'est vraiment cette question de l'accessibilité qui, moi, un jeu peu accessible et pour moi un jeu.
Est-ce que c'est pas au final juste un problème de but ?
De but du jeu, tu
ouais,
veux dire ?
Au final, quand t'as un jeu qui est. Alors forcément, t'as un objectif qui est défini, qui peut être synthétisé en une phrase, mais si tu prends, par exemple, le but du jeu de Eclipse, voilà, donc...
Qui est un jeu velu, on peut
dire. Voilà, qui est, un jeu velu, donc qui prend, nécessite
même
d'avoir
si, même
tout
si
un
là,
tas de paramètres.
Les règles sont bien écrites et qu'il y a plein d'éléments simples à prendre en compte, ça reste un jeu très long, et là, on a tout, là, on a... Sauf la règle, effectivement, si la règle... Je sais plus quelle taille elle fait, la règle, pour le coup, mais...
J'ai fait qu'une partie, c'est pas moi qui ai le jeu,
mais... Bon,
c'est un
jeu assez long, ouais. Et assez complexe quand même, pour le coup. Enfin, je sais pas si complexe c'est le mot, pour le coup, mais long et avec beaucoup de choses à prendre en compte, on va dire. Et donc, oui, tu disais sur Eclipse.
Ouais, parce que disons que tes choix, en fait, sont totalement ouverts sur les actions que tu vas vouloir faire. Et c'est ça aussi qui rajoute de la complexité, parce que tu peux pas... T'as pas, on va dire, un chemin un peu guidé ou tracé sur... disons que sur l'enchaînement des actions que tu dois réaliser.
Comme dans des jeux où, par exemple, pour aider la première partie, on te donne un objectif secret qui va t'orienter dans ta partie et qui, effectivement, en général, c'est bien à suivre. Dans Race for the Galaxy, ça va être le premier monde, le monde militaire, tu fais une stratégie militaire et puis voilà.
Voilà, donc t'as déjà un pied à l'étrier pour t'engager vers, on va dire, ton but perso pour atteindre la fin de partie.
Ce que tu me dis, ça me fait penser, par exemple, à Caelus aussi. Où au début, t'as beaucoup, beaucoup de choix entre les différents bâtiments, etc. Et la première partie, le début de première partie est affreux parce que t'es là à te dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Ou Kemet a ça aussi un peu. Il y avait joué récemment qui est pourtant pas si complexe, mais avec toutes les tuiles de pouvoir affichées.
Ouais.
Quand on connaît pas, on se dit, mais comment je vais faire pour choisir? Comment je vais faire? Et finalement, on se rend compte que tout choix est plus ou moins valable et que c'est un choix qu'on fait au début et qu'on va suivre, qui va nous donner ce chemin qu'on va pouvoir suivre. Mais dans Keylus, moi, la première partie, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi? Et pour moi, là, tu vois, c'est un jeu Keylus pas du tout accessible, parce que, à moins d'y aller au pif, et c'est une possibilité, hein, pour les nouveaux joueurs. Et, mais si tu veux un minimum t'investir et gagner, t'es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi?
Le problème, c'est que t'as pas l'ensemble du matériel de départ qui te permettent d'arriver jusqu'au but du jeu. Et si on fait un petit comparatif avec un jeu que j'ai chroniqué tout récemment, pour le numéro 79, donc j'ai parlé de Lewis et Clark dans le top 500 BGG, et en début de partie, t'as une main de cartes, et cette main de cartes, elle te permet tout à fait d'arriver à la fin du jeu. Donc dans ce jeu, en fait, il faut traverser le territoire des États-Unis, hein, c'est l'expédition Lewis et Clark qui a eu lieu en 1803, et au final, avec ta main de départ, tu peux très bien arriver jusqu'à la fin de partie. Donc
tu perdras, mais
voilà, ça sera clairement pas optimisé, hein, ça c'est clair. Mais au moins tu as déjà toutes les cartes en main, façon de parler, pour arriver à ton but du jeu. Et t'es pas en train de te dire, tiens, il faudra peut-être que je, comme d'autres jeux, il faut que j'achète telle technologie qui va me débloquer telle action pour ensuite en débloquer une deuxième, pour en enchaîner une autre, etc., etc.
Même s'il y a quand même ça, hein. Moi, je trouve dans les Oui, c'est clair, où t'es là et tu te dis, alors, il faut que je fasse telle action pour avoir ça, pour pouvoir prendre telle carte. Mais sauf que...
Ouais, mais tu les as tous en main, déjà.
Ouais. Oui, enfin,
t'es,
ouais.
T'es pas en train de te dire, il me faudrait un truc comme ça. Que t'as pas sous les yeux. Tu vois,
Oui, toutes les informations sont présentes.
C'est ça.
Il y a un jeu qui, comme ça, limite justement les choix, qui est très bien, je trouve, c'est Bruges de Stefan Feld, qui est un de mes jeux de Feld préférés, parce qu'en fait, on a beaucoup de choix.
Enfin, tu les aimes tous, hein, les Feld.
Les Feld? Non, même pas. Non, je suis pas un Feld maniaque, du tout. En général, il me plaise, mais je trouve qu'il a fait rarement des grands jeux. Il fait à chaque fois des bons jeux. Je trouve super intéressant sa démarche d'auteur dans le, je vais faire une action, comment je vais la faire? Parce que tous ces jeux se résument à ça, faire une action, mais comment est-ce que je vais faire mon action? Et il explore un peu ce système d'action, et je trouve ça intéressant, mais après, je suis pas un grand fan de Feld. Par contre, Bruges, c'est juste ce qu'il me faut, moi, comme niveau de frustration. On a un certain nombre de cartes en main, on va pouvoir en jouer une. Ça, en fait, les cartes ont une certaine couleur, mais en fait, avec chaque carte, on va pouvoir faire toutes les actions. Et on a un arbre des possibles qui est relativement limité. Du coup, assez rapidement, on se dit, j'ai ces choix-là. Là, je veux faire ça.
J'ai N choix parmi...
Voilà, mais le N choix n'est pas trop long.
Ouais.
Du coup, on a vite analysé lequel est, sinon le meilleur, en tout cas celui qu'on veut faire maintenant. Et du coup, voilà, on n'est pas à se prendre la tête. Oui, mais je peux faire ça. Si je fais ça, ça va faire ça. Il y a... Pour moi,
t'es dans l'instant présent et tu programmes pas forcément tes actions pour
les
tours
suivants. C'est un des faits les plus légers, je trouve, hein, par rapport à Trajan, à l'année du dragon ou à Amerigo, peut-être, qui est pas si lourd que ça non plus, mais.
Au moins, un de mes faits préférés, c'est, je pense, les châteaux de Bourgogne.
Ouais, qui est pas non plus si complexe que ça, parce que t'es déterminé par les jets de dés aussi.
J'ai juste regretté qu'ils aient pas thématisé les marchandises.
Ouais, bon, ils ont rien thématisé dans ce jeu, de toute façon. Je crois, bon, on parle comme ça, on a préparé un petit peu, mais pas plus que ça, donc bien sûr, c'est ouvert, hein, on a sûrement dit des idioties. Après, c'est aussi notre subjectivité, justement, pas le velu par rapport à nous, c'est difficile de parler de manière totalement objective, hein, puisque forcément, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, un Familial Plus va peut-être être velu pour des nouveaux joueurs, alors que pour nous, ça va être assez simple.
Voilà, au final, c'est presque compliqué, au final, d'essayer de qualifier... Qu'est-ce qu'un jeu velu? Parce qu'on a essayé de parler de règles, d'épaisseur de règles, de durée de jeu, de complexité, de taille de boîte, mais on a systématiquement des contre-exemples, hein. Donc je pense qu'un des meilleurs contre-exemples en termes de taille de boîte et d'épaisseur de règles pour un jeu velu, c'est Illuminati. Je sais pas si t'as déjà joué.
Je crois que j'ai déjà fait une partie il y a longtemps, mais je pense que je confonds avec un autre jeu peut-être, mais.
Bah, c'est le jeu où tu vas développer ton...
Ouais, je
ton
vois
arbre
le concept
d'influence,
du jeu, ouais,
tu vas t'attaquer aux autres.
Et c'est dans une toute petite boîte format citadelle, non?
Ouais, c'est ça.
Je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Après,
et en termes de durée de partie, c'est aussi énorme.
Super long,
c'est super long, hein. C'est-à-dire, un autre jeu, bon alors là, ça serait pas un jeu velu, mais si on parle de Munchkin.
Munchkin.
Ça peut aussi durer des plombes,
Ça peut durer des plombes, et du coup, c'est le principal défaut de Munchkin, c'est un jeu d'ambiance qui dure 3 plombes, et ça marche pas. Ouais, donc effectivement, bon, n'hésitez pas en tout cas à intervenir si vous trouvez par exemple que nous on a cité des jeux qui pour vous sont pas du tout velus pour telle ou telle raison, n'hésitez pas à intervenir.
Ou si on est à côté de la plaque.
Ouais, mais de toute façon c'est une discussion. Donc après il y a aussi le velu. Moi ce que ça m'évoque effectivement c'est un jeu de niche et pour moi si on me dit un jeu velu ça va être un jeu complexe. Ça peut aussi être utilisé finalement presque comme du marketing, cette idée de complexité, de oh c'est pour les hommes les vrais, ne vous y attaquez pas, etc. C'est-à-dire qu'on va faire un jeu. Par exemple, par Kickstarter, on va viser un public cible assez restreint, un public de niche déjà, un public de niche qui est le gros joueur, c'est un peu le joueur velu, c'est le gros joueur, alors un gros velu, par exemple. Et finalement, on va dire, ok, on va pas en vendre 100 000 boîtes, par contre, vous, les 40 000 joueurs qui aimaient le jeu velu, si vous l'avez pas, à 50 ans, vous avez raté votre vie. Et ça peut être finalement un argument marketing élitiste, un peu, à dire, nous, on fait des jeux pour les vrais joueurs. La pub PlayStation, c'est For the Players, ou un truc comme ça, We Are the Players, et qui martèle son truc un peu élitiste comme ça, alors que PlayStation, justement, c'est très, très grand public, quoi, pour le
Tu vois, pour autant, il y a des éditeurs qui se sont spécialisés. En fait, on a les deux courants. On a les éditeurs spécialisés dans les jeux velus. Donc, si je prends, par exemple, GMT, hein, donc l'éditeur américain qui publie des gros jeux, donc, Twilight Struggle, Labyrinthe, toute la série des Coin Series. Donc, bon, il y a aussi un aspect historique, un contexte historique assez fort, hein, sur l'ensemble de ces jeux. Ou encore Dominant Species, hein. Je sais pas si t'as joué.
Ouais, non, j'ai pas joué, mais je vois, et j'ai un ami qui me tenne pour qu'il y joue à chaque fois.
C'est aussi un jeu complexe. On pourrait, bon, là, je pense qu'on est un bon exemple de jeu velu, au final.
Mais du coup, en marketant comme ça, ce serait un peu l'opposition au Familial Plus. C'est, ok, nous, on fait pas de ce truc pour les noobs, pour le grand public, le Familial Plus, le Familial. Voilà, nous, on fait du vrai jeu. Il y a aussi l'idée de, on est des vrais joueurs, on fait du vrai jeu, qui est un peu, qui est un discours, hein.
Mais c'est un peu marrant parce qu'au début, les tout premiers jeux auxquels je m'intéressais, s'il y avait marqué moins de 90 minutes sur la boîte, je regardais pas.
Ah ouais.
Bon, au final, tu t'intéresses quand même aux autres jeux parce que si tu veux pouvoir y jouer en dehors d'une soirée dédiée à un seul jeu qui va te prendre 3-4 heures,
si tu veux
essayer de jouer un peu plus souvent, si tu veux jouer entre midi et deux au boulot, par exemple, t'es obligé de t'orienter sur des jeux un peu plus simples. Et au bout d'un moment, tu dis... y a quand même... Enfin, tu te fais un idéal où t'anticipes les parties que tu vas faire sur des jeux complexes, et après, une fois que t'es dedans, ça peut quand même être un peu laborieux, quoi.
Ouais, et puis les jeux velus, moi, je sais que quand on fait des week-end jeux, par exemple, je sais que je vais en faire peut-être un dans le week-end qui va durer 3h30, 4h, mais pas plus, parce que sinon, après, moi, j'arrive plus, quoi, au niveau du cerveau, je prendrais plus de plaisir, je prends du plaisir sur un, mais en enchaîner deux, ou bien un chaque jour, quoi, mais vraiment pas plus, parce que sinon ça me crève trop. Et c'est des jeux assez long quand même, mine de rien, souvent, parce que moi je joue avec des joueurs qui pour qui ce type de jeu va être forcément synonyme de durée, et c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a tellement de jeux qui sortent qu'on préfère en faire 3 en 6 heures que 1 en 6 heures. Et aussi l'idée de, si on le fait pas souvent, alors c'est Greg, hein, c'est ça, Weekend Proxy Show, qui faisait un jeu par année et qui du coup gardait les règles en tête. Par contre, voilà, si on sort par exemple un Dungeon Lords, qu'on y joue une fois, déjà on se plonge dans les règles, on explique les règles pendant 45 minutes, une heure.
Ah, t'es obligé de maintenir une fréquence de jeu assez élevée.
Voilà, pour se rappeler des règles, parce qu'il suffit que tu joues plus pendant 6 mois, et puis tu vas le relancer. C'est aussi l'accessibilité dont je parlais tout à l'heure.
Il faut avoir envie peut-être de refaire l'effort de se replonger dedans.
Voilà, c'est ça. Et c'est un frein, hein, parfois. Moi, je me dis, ah, j'aimerais beaucoup refaire un Brass, par exemple, Canamia. Oh, mais on avait fait une demi-partie, ça nous avait pris 3 heures, et punaise, faut nous trop taper ça avec de Wallace, quoi. Et c'est un frein, effectivement, à ça.
Et on voulait aussi parler du metagame qu'on peut avoir dans certains jeux velus, donc tous les jeux où t'as de la négociation,
C'est un phénomène social simple, en fait, hein. C'est pas une mécanique complexe, la négociation, dans l'absolu.
Mais elle peut prendre du temps,
ça prend du temps.
Parce qu'après, tu peux avoir des blocages. Je veux dire, si une personne a décidé que non, elle ferait pas de compromis,
on en revient à Catan, hein, ouais.
Voilà.
Ou à Rencontre Cosmique également.
Donc bon, après, heureusement, ton blé, tu peux l'échanger à 4-1 avec la banque, mais
Ouais. Mais c'est vrai que moi, le metagame comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux, pour le coup. Mais qui, pour moi, va rajouter une certaine complexité du implicite ou explicite, ça dépend en fait des termes de la négociation, mais qui va rallonger la durée de partie, mais sans lui rajouter de la complexité, parce que ça va être du discours, ça va rallonger le jeu, mais sans complexifier, pour moi, ce genre de choses. Metal Adventure, je pense aussi, par exemple.
Ça va te rajouter de la complexité, parce que tu vas être obligé d'intégrer un paramètre supplémentaire.
Ouais.
Si tu prends, par exemple, le jeu Fief, je sais pas si t'as déjà joué à...
Je l'ai à Kickstarter, mais j'y ai pas encore joué.
T'as pris la totale
J'ai pris la totale, bien sûr. Quelle question.
Le all-in, hein, comme d'hab. Ouais, je l'ai aussi Kickstarté, et j'ai fait une partie à Cannes en 2015. Et c'était une partie qui était très longue. Hein. En plus, il y avait l'explication des règles d'abord. On était quand même 6 joueurs, donc la table est complète. Et forcément, dès que tu rajoutes de la négociation, de la discussion... tu rajoutes des paramètres supplémentaires et qui disent, tiens, si je fais telle action, bon, là, je suis allié avec ce joueur, mais si entre-temps, il me fait un coup de poignard dans le dos, quelle est ma situation de repli? Enfin, ton arbre des possibilités, il est d'autant plus large.
Ouais, en fait, ça dépend si les négociations sont fixes et qu'on peut parvenir dessus, ou si elles sont libres à interprétation de chacun. Dans diplomatie, c'est pareil, on signe des petits, on s'écrit des petits trucs, etc., on discute. Et on dit ouais, bien sûr. Et en fait, tu peux jamais être sûr, parce que tu te dis, ok, mais s'il a menti, il peut faire ça, etc. Et effectivement, c'est un certain nombre de paramètres en plus à prendre après dans la décision.
La question qu'on s'est posée aussi, c'est, est-ce que des jeux velus, c'est des jeux de la vieille école?
Ouais, moi je
bon.
Suis... Il y a plein de jeux aujourd'hui qui sortent. On parlait de Tricarion, on parlait de Madeira, qui sont des jeux relativement récents, qui se vendent effectivement à pas forcément énormément d'exemplaires, mais qui existent.
Madeira, il a vite été soldé.
Madeira, ouais, tout à fait. C'est des jeux qui ont du mal aujourd'hui à sortir. Enfin, parce que finalement, pour l'éditeur, sortir un jeu qui coûte 40€, 45 ou 50, qui va se vendre à 10 000 ou 15 000 exemplaires, et qui va prendre un temps d'édition bien plus long s'il faut le développer, c'est moins intéressant que de sortir un jeu familial, familial plus, qui va se vendre 35 à 40€, qu'on va vendre à 40 ou 50 000 exemplaires, et qui est pas forcément plus court à éditer, mais où il y a moins, en tout cas, d'équilibrage à faire. Du coup, peut-être, de ce côté-là, il y en a moins qui sortent. Par contre, je pense que c'est pas forcément un jeu de la vieille école.
Parce que, bon, si tu prends les jeux qui sont sortis dans les années 80, 90, 2000,
carrément.
C'était presque que des jeux velus, hein. Bon, à part les jeux que tu retrouvais en grande surface, hein. Bon, ça, c'est autre chose.
Ouais. Si on pense à Tikal, à Java aussi. Oh, Java, punaise. Ça aussi, c'est un souvenir douloureux d'une partie à deux. Mais, Civilization, on en a parlé.
Et dans les autres, avant on parlait de GMT en tant qu'éditeur un peu spécialisé dans les jeux velus, bah on a aussi les Splotters qui rencontrent leur public et leur succès.
Et qui tous les ans ils sont out of print quoi, enfin ils ont plus quoi, ils sont sold out et puis ils doivent et qui sont tous les ans retirés comme Twilight Struggle finalement.
Bah dans une vidéo de Trick Track, il y a eu une présentation de Twilight Struggle et il disait qu'a priori le jeu avait été vendu entre 30 et 40 000 exemplaires.
Ouais, depuis 10 ans,
c'est pas énorme pour un jeu qui est aussi bien classé au...
Mais c'est quand même beaucoup pour un jeu de cette complexité qui a deux joueurs seulement.
Mais, bon, je m'attendais à ce que ce soit plus, hein, quand même, au final.
Oui, c'est pour ça, moi, ça me paraît pas tant que ça non plus, finalement, 30 ou 40 000.
Et là, bon, ça prouve bien que c'est un peu des jeux de niche. Et après, si on avait un contre-exemple, un jeu
de la vieille.
Velu qui aurait, rencontrer un succès inattendu.
Bah, Keilu s'est vendu à, je crois, 100 000 ou plus, parce que finalement, il a marqué d'une pierre blanche vraiment l'histoire de l'Eurogame. Qui s'est vraiment très bien vendu. Bon, un jeu vraiment... Bah, le Trône de Fer a dû bien se vendre, je pense.
Bon, c'est grâce à la licence derrière.
Bon, la licence est sortie avant le film. Hein. Enfin, le jeu existait avant le film, avant la série.
Ouais.
Et je pense que la série lui a donné un coup de boost. Mais je pense que celui-là... Diplomatie est vraiment vieux. Est-ce que c'est vraiment un jeu velu? Je sais pas. Il est très long, en tout cas. Mais... Civilization, il a dû bien se vendre quand même dans l'absolu, parce qu'il y a aussi le nom de la licence, etc.
Voilà, il y a le jeu quand même, le jeu vidéo derrière.
Si vous avez des exemples de jeux velus qui se sont vraiment bien vendus, moi, je pense effectivement à Keilus, à plus de 100 000. De jeux velus, disons, comme on l'entend nous, hein, vraiment...
Si tu prends le Kickstarter de Fief, il a quand même bien marché. Hein,
Ouais, c'est vrai.
Bon, faudrait juste vérifier ce que ça donne en termes de backers, mais je crois que la somme finale, c'était dans les 400 ou 450 000 dollars.
Sur des... Ouais, bon, ça fait moins de 10 000 personnes quand même. Ou 10 000 personnes, mais pas plus, quoi.
Ouais.
Je pense, parce que si...
Sur un pledge à 60 ou, ouais, donc ou 70 dollars de base. Hein.
Ouais, donc ça fait moins de 10 000, ouais. On passe vite fait à la dernière partie, de quelques jeux que nous, on considère comme velus. Alors, n'hésitez pas à nous dire les vôtres.
Ouais. Hein, bah, on en a déjà cité quelques-uns en exemple lorsqu'on a abordé les différentes parties.
Ouais, bah, je te laisse commencer.
Bah, ouais, moi j'avais pensé à... Au final, Archipelago, c'est quand même un jeu un peu velu, hein, qui mélange un certain nombre de mécaniques.
Et pourtant, donc, moderne, hein, 2012, je dirais.
Ouais, dans ces eaux-là. Enfin, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour son metagame, pour sa partie exploration.
Pour le côté aussi semi-coop, un peu...
Voilà, c'est ça, avec fourbe, de la communication, de la traîtrise, de la négociation, un peu de diplomatie. Il y a Fief aussi, donc bon, toujours aussi pour ces mêmes aspects, hein, qu'on va retrouver. Et forcément, Twilight Struggle, hein, on peut pas le... Je peux pas l'occulter, hein, celui-là.
Ouais, moi, si on me dit... Dis-moi le nom d'un jeu velu. Je vais faire court et je vais penser tout de suite à Dungeon Lords de Vladash Fatil, qui est édité en français chez Yellow, qui a une extension aussi, qui est très très bien parce que Vladash Fatil est un auteur de génie et qu'il arrive à thématiser ses jeux comme personne. C'est un jeu où vous incarnez le maître du donjon et où va falloir poser des pièges, construire des salles, envoyer vos bestioles, arrêter les aventuriers. Mais ça se fait à base de programmation cachée qui va définir un certain ordre d'action. C'est-à-dire que si vous avez joué cette action, mais en premier ou en deuxième, ça va pas tout à fait être pareil. Et la phase de programmation est totalement analysis paralysis, quoi. C'est, t'es là et tu te dis, ok, je joue ça. Ah non, mais il vaudrait mieux que je joue ça. Mais si je joue ça en deuxième position, ah mais celui-là en troisième. Et on a joué à trois. Alors déjà, les règles sont pas faciles à assimiler parce que les règles de Schwatil, il fait beaucoup de fluff, qui est très agréable, mais qui parasite un peu, même si c'est jamais obligatoire de les lire.
Donc, du coup, la règle est épaisse, mais pas forcément en termes de complexité de lecture.
Pas forcément accessible, encore une fois. Et puis nos jeux, on a fait une demi-partie et nous on a joué 4 heures. Bon, alors c'est très long, hein. Normalement, Dungeon Lord, c'est peut-être 120, 140 minutes de jeu, je pense, quand on maîtrise. Mais c'est le premier exemple. Après, il y a Brass, dont j'ai parlé tout à l'heure également. Il y a A Few Acres of Snow, que moi je joue très longtemps, même si là aussi, je pense qu'une fois maîtrisé, ça perd de sa pilosité. Et après, le Trône de Fer, qui est très très long, mais que pour le coup, je citerai en contre-exemple, parce que finalement, une fois qu'on en a acquis les règles, c'est relativement simple, puisque c'est un bête jeu de programmation, il y a tout le metagame dont tu parlais, de négociation implicite qui va se mettre en place. Mais dans l'absolu, c'est un jeu long, mais pas du tout complexe, qu'on peut conseiller justement pour voir un jeu de ce type-là, quoi. Plus simple, par exemple, que Metal Adventures, qui se base un peu sur le même créneau de négociation, de tchatch, etc., qui est plus complexe, mais beaucoup moins long. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là sur... Il y a Keylus, parce qu'on pourrait penser que Hystaria fait que des jeux velus. Alors, en fait, finalement, quand on regarde Bombay, c'est pas un jeu velu. Witness, n'en parlons pas. Shakespeare, tu vois, je le classerais pas dans les jeux velus, je le classerais... Il est... C'est... Peut-être qu'il y a 10 ans...
Du familial plus. Enfin, c'est quand même orienté joueur averti.
Mais ça n'a rien à voir. Par exemple, pour moi, chez Hystaria, le seul jeu vraiment, vraiment complexe à aborder, ce serait Keylus, effectivement. Peut-être Amitis aussi, mais parce que c'est un jeu de tempo et que je suis nul en jeu de tempo. Mais sinon, Keylus, qui vraiment pour moi est peu accessible. C'est un très bon jeu, mais très peu accessible, quoi. Difficile à aborder. Donc, dites-nous vos jeux velus, n'hésitez pas, vos préférés.
Voilà, bah on va s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode donc de...
Les termes au fromage.
Voilà. Et on vous dit à bientôt dans un nouveau numéro. Et on ne sait pas encore quelle lettre on va tirer, mais
ça, c'est le hasard.
C'est la surprise pour le prochain épisode.
Totalement aléatoire. Alors on vous dit à salut, et en attendant,
jouez bien.
C'est un assemblement de... Surtout pour les dinosaures qui avaient du poil, pour le coup.
Voilà, c'est ça.
La chasse aux monstres, est-ce que c'est un jeu velu, hein? On peut se poser la question, la chasse aux monstres. Vous avez des idées, si vous avez des idées de jeux velus, parce que les gens ont des poils dedans, garde la ligne animaux, je sais pas.
Voilà,
on va s'arrêter là sur ce terme, je pense qu'on a déjà fait bien trop long.
Voilà, c'est... Au moins, je suis content, t'as pas cité Time Stories.
C'est pas un jeu velu, c'est un jeu très accessible, Time Stories. Très facile à jouer. Et c'est... Pour Monsieur Blue, une espèce de jeu de génie.
Voilà.